Suite du journal et des lettres de John Bunyit. Un écrit de John Bunyit, parvenu depuis l'impression de ses œuvres, le 27e du 8e mois, 1667. Le matin, comme j'étais couché sur mon lit, et que mon âme était grandement affligée à la vue et à la considération de l'état des choses, tel qu'il était parmi les amis dans la ville de Bristol et dans quelques lieux voisins, à cause de la grande crêle et de l'opposition, et comme j'étais sous cet exercice et que ma vie paraissait attristée, jusqu'à ce que mon âme fût parfois amenée à une vive angoisse et à de la douleur, en voyant combien certains étaient durs, indisciplinés et obstinés, dans ce travail d'esprit mon cœur étant courbé. Puis, quand j'étais ainsi descendu dans la tombe du renoncement à moi-même, où je pensais pouvoir être et être foulé aux pieds, le Seigneur Dieu me signifia par son Saint-Esprit de cette manière, « Bien que tu sois disposé à être ainsi, pourtant tu ne seras pas foulé aux pieds. » Et il ajouta, « Il y en a parmi qui sont comme des morts devant moi, parce qu'ils ont levé le talon contre moi, rejeté ma parole, et méprisé ou tenu pour rien mon reproche. » Le Seigneur Dieu me signifia encore que l'esprit de Corée et de Balaam était entré, lequel voudrait fermer la porte à la vérité, arracher Christ de son trône, et entraîner l'esprit des gens après leurs propres inventions, afin d'adorer l'œuvre de leurs mains. Il me signifia encore comment la plaie de la lèpre et le dur jugement de l'endurcissement du cœur étaient sur eux, qu'ils avaient perdu leur beauté et n'étaient pas propres à s'approcher de l'autel du Seigneur, ni à être dans l'assemblée du Seigneur, et qu'ils décideraient de la faire. Il me signifia encore, pour ma consolation, qu'il y avait un prêtre qui se tiendrait entre les vivants et les morts, avec un encensoir saint et un encens pur pour faire l'expiation, et que les yeux de tous les tendres et sensibles devaient être tournés vers lui, afin qu'ils reçussent la loi de sa bouche et que ses lèvres conservassent leur connaissance. Et il y avait encore quelque chose de l'esprit de Caïn qui paraissait être entré, celui-là même qui enviait l'acceptation d'Abel. Quand j'eus vu ces choses de la part du Seigneur et qu'il me fut montré que je pouvais exposer la chose au peuple, mon cœur fut merveilleusement brisé au-dedans de moi et je criai et dis « Malheur à moi ! Faut-il que je sois le messager pour porter ce message à ce peuple ?» Et comme j'étais sous cet exercice, le Seigneur me signifia, « Si je délivrais sa parole fidèlement, alors je délivrerais mon âme, mais si je ne le faisais pas, j'en mourrais, ma vie irait pour la leur. » Alors la crainte de la parole du Seigneur et sa majesté me terrassèrent, et me rendirent disposé à être livré, sans raisonner davantage. Béni soit le Seigneur à jamais, lui qui donne à la fois la parole et la puissance de la transmettre. John Bunyit aux amis de la Nouvelle-Angleterre, de la Virginie, du Maryland et de la Barbade. Chers et bien-aimés, à vous qui êtes les appelés de Dieu en ces contrées, à vous chez qui la visitation de son jour est parvenue, et sur les cœurs desquels la lumière céleste a brillé dans ses pures effusions spirituelles, de sorte que vous en êtes devenus les enfants et que vous y marchez. À vous tous parvient la tendre salutation de mon âme dans l'amour de Dieu, et dans la communion, qui est un mystère, gardée dans une conscience pure et continuée tandis que nous marchons et demeurons dans la lumière, dans laquelle nous avons communion avec le Père et avec le Fils, et aussi les uns avec les autres. Et ainsi nous sommes d'une même famille et d'une même maison, participant de ce pain unique dont tous les sanctifiés de tous les âges se sont nourris. Et c'est ce que nous devons attendre en ce jour afin de vivre par lui pour Dieu et de croire. Chers amis, grande et abondante a été l'amour et la bonté de notre Dieu envers nous, qui étions étrangers, aliénés et ennemis dans nos pensées à son égard, en ceci qu'il nous a appelés et choisis pour être son peuple et pour rendre témoignage à son apparition et à l'éclat de sa lumière et de la gloire de sa présence, par quoi il a richement consolé nos âmes et relevé nos têtes au-dessus de toute tristesse, même lorsque l'ennemi a pensé nous enfoncer dans la fosse. Ainsi le Seigneur a-t-il comblé nos âmes et été un secours prompt au temps opportun, à lui l'honneur et la gloire au siècle des siècles. De sorte qu'à présent il convient à tous, après tant de délivrance, de faveur et de miséricorde, de s'attacher étroitement au Seigneur, de chercher sa gloire par-dessus tout, et cela de toute leur force, afin que celui qui est le bon vigneron soit glorifié par le fait que chacun porte du fruit, selon le commandement de Christ. Maintenant, mes amis, observez tous ceci. Nul ne peut porter du fruit pour la gloire de Dieu, sinon en demeurant en Christ, la vigne vivante, de lui vient la vie reçue, par laquelle chacun vit pour Dieu, et c'est par la vertu de cette vie que chacun doit agir à sa louange. Veillez donc à la conserver dans sa propre pureté, et à vivre dans la soumission à elle tout au long de votre jour, afin d'être comme des branches fécondes, demeurant dans la juste nature et portant un fruit saint. Alors vous sentirez la sainte rosée demeurer sur votre esprit tout au long de votre âge, qui vous préservera du dessèchement, votre feuille du flétrissement. Ainsi votre fruit mûrira en son temps, et ne sera pas produit prématurément dans ce qui ne peut durer, car ce en quoi nous avons cru durera à jamais. La puissance céleste que Dieu a révélée dans nos cœurs et rendue manifeste comme un fondement stable est sûre pour toujours. Et si vous y demeurez ferme, les portes de l'enfer avec toute la puissance des ténèbres ne prévaudront pas contre vous, mais vous pourrez lui résister, garder vos demeures dans sa domination, et habiter en paix sur le rocher de sûreté au milieu de toutes les tempêtes, et chanter de joie de cœur, lorsque ceux qui abandonnent ce rocher hurleront et se lamenteront dans la vexation de l'esprit. Seigneur Dieu fera venir son jour et sa puissance sur tous et contre tous ceux qui courent vers quelque abri, ou cherchent quelque autre défense, eux qui ont connu une fois sa vérité. Et il sera pour tels comme une taie et comme une pourriture. Leur force il la consumera, leurs vêtements et leur habillement il les détruira, leur beauté et leur gloire il les fera se flétrir. Quand bien même ils auraient été comme une belle fleur au sommet d'une vallée grasse, le flétrissement viendra sur eux, la sécheresse à la racine, et le dessèchement et la décomposition sur la peau. Que tous donc demeurent attachés à cela, et en cela, qui ne se corrompt pas, ne s'anéantit pas, ni ne se change jamais en ténèbres, mais demeure dans sa vertu et sa gloire, en est par quoi le Seigneur vous a visité, et par quoi son jour a lui sur vos âmes, dont vous avez connu l'aurore brillante et claire, sans nuage, et dans laquelle vous avez vu le Fils apparaître à vos âmes dans sa gloire, avec sa guérison céleste, sa chaleur et sa vertu. Maintenant, amis, c'est cela qu'il faut garder à jamais, afin que le jour soit connu comme croissant en lumière et en gloire, dans sa propre clarté sans mélange, sans y mêler votre propre sagesse, vos pensées ou vos imaginations charnelles, lesquelles se révèlent être des nuages là où on les laisse s'élever, apportant les ténèbres sur l'intelligence, rendant le jour nuageux et sombre, et causant ainsi l'égarement et pour certains changeant jusqu'aux paupières même du matin en ombre de mort. Par de telles choses, l'ennemi a tant prévalu sur quelques-uns qu'il les a ramenés dans la nuit des ténèbres et de la confusion éternelle, avant qu'ils ne s'aperçoivent où il les conduisait. Et ainsi, comme un homme dépourvu d'intelligence sur lequel l'adultère a prévalu et qu'elle a conduit aux chambres de la mort, beaucoup ont suivi ces pas qui mènent à l'enfer, où la misère est assurée d'être rencontrée. Chers amis, ce qui préserve de ces dangers, c'est ce bras et cette puissance que Dieu révéla au commencement, par lesquels, comme nous en sommes témoins, il racheta nos âmes de nombreuses afflictions. Que chacun donc ait soin d'attendre un sentiment clair et sensible de cette même puissance, dans sa propre nature pure, jaillissant chaque jour dans tous vos cœurs. Alors votre joie y sera telle, et votre familiarité avec elle, dans une compréhension claire, sera telle, que vous ne serez jamais trompé au point de prendre autre chose pour elle. Alors, pour votre consolation, votre paix céleste jaillira sous la puissance et le gouvernement de celui qui est le prince de la vraie paix. Ainsi vos cœurs seront rendus vraiment joyeux, graves et pondérés, et ne seront pas emportés par tout vent, car c'est là la vraie et pure stabilité de l'âme, avec la grâce dans l'alliance de vie à jamais. Et ce sont ceux dont la paix est d'une nature durable, qui ne sont pas portés au changement. Mais j'ai toujours observé ceci, là où il y a un esprit ou un mental incertain, même si dans certains états où ils peuvent parfois entrer, ils peuvent avoir la paix et sentir quelques rafraîchissements pourtant faute de constance et de fermeté, lesquels sont conservés par une attention vraie, vigilante et diligente à ce qui ne change pas, qui est sûr pour toujours, ils perdent leur demeure et leur état de paix, et en viennent à être ballottés dans leurs pensées et affligés dans leurs esprits, et ils sont aussi l'occasion de tourments, d'afflictions et de détresse. Il est donc bon que chacun ait le cœur affermi par la grâce, et dans la grâce attende un établissement, afin que sous son enseignement pur, il soit préservé d'entrer dans ces choses qui procureront du malheur. Ainsi l'état de chacun dans ce qui est bon sera de plus en plus constant, et il y aura croissance et marche en avant, et non en arrière. Car ce qui fait que certains s'attardent ou reculent, c'est la négligence, l'incrédulité et la désobéissance, et en tel le Seigneur ne prend aucun plaisir. Ainsi dans ce qui ne change pas, que tous vivent, par quoi toutes les pensées, imaginations et convoitises changeantes et mobiles seront jugées et abaissées, et la source de vie au-dessus de toutes choses s'écoulera, et les premiers seront les derniers, car c'est là que la beauté et la gloire demeurent à jamais. Tous ceux qui n'y demeurent pas pour croître dans sa vertu, quoi qu'ils aient été, au mieux ne seront qu'une fleur qui se fane au sommet d'une vallée grasse, comme ce fut le cas d'Éphraïm. Le Seigneur ne prendra aucun plaisir en eux, mais les rejettera et les chassera, comme tels dont la beauté s'est allée, dont l'or est devenu terne, et dont le vin est mêlé d'eau. Et comme de l'argent réprouvé, ils seront estimés même des hommes, parce que le Seigneur les a rejetés. Que le Seigneur Dieu vous garde donc, et vous préserve tous dans ce qui était dès le commencement, et qui durera jusqu'à la fin, afin que, en cela, vous puissiez fleurir et croître comme le lit de la vallée et l'arbre près des rivières d'eau. Tel est le désir de mon âme pour vous tous, moi qui vous aime véritablement dans l'amour de Dieu, dans lequel je demeure un avec vous, et suis votre frère dans la vérité, John Bunyan, Londres, le 10 du 3e mois, 1667. Le 2e du 10e mois, 1667, Olive Maury, un délateur, entra dans une assemblée à Marantulus, dans le Montgomery au pays de Galles, où John Bunyan, dans la crainte de Dieu, s'adressait au peuple et leur prêchait l'évangile de paix et de salut pour leur bien, comme il l'avait reçu du Seigneur. Le dit délateur, avec plusieurs constables et beaucoup d'autres gens grossiers, entra deux fois dans l'assemblée pour la disperser et causa un grand trouble, mais les amis restant assis en silence, seul l'un d'eux discuta la chose avec lui. Finalement il sortit avec toute sa compagnie vers l'écurie, et là ils prirent tous les chevaux des amis qu'ils purent trouver dans la ville, mais après la réunion nous les récupérâmes, car ils avaient alors été pris sans aucun fondement légal. Mais le lendemain, le dit délateur se rendit chez William Pugmason, un juge de paix ainsi nommé, qui vint avec lui, et rencontrant John Bunny et Thomas Ellie sur la route, Il les arrêta tous deux et les fit retourner dans une auberge, où ce délateur et le bailli de William Puck jurèrent contre eux pour avoir prêché à la réunion susmentionnée. Pour cela, le juge les amenda, rédigea un mandat et envoya chercher un constable, qui, en vertu du mandat, saisit les chevaux de John Bunny et de Thomas Ely avec sel. Telle fut la récompense que les serviteurs du Seigneur reçurent de leurs mains, pour leur amour et leur bonne volonté envers les âmes des gens. Mon cheval mourut dans l'heure et demie qui suivit la saisie, et celui de l'autre ami mourut entre les mains du délateur dans l'espace de 6 mois, à la réunion des femmes de Cumberland. Londres, le 20 du 4e mois 1678. Chers et bien-aimés dans le Seigneur, avec vous mon âme a une précieuse unité dans la communion spirituelle, dans la proximité et l'unité céleste, qui demeure dans cette vie par laquelle nous avons été vivifiés au commencement, dans laquelle nous vivons, et dont l'accroissement nous fait grandir jusqu'à une compréhension céleste et une véritable solidité dans le discernement et le jugement, par quoi les fidèles en viennent à être de plus en plus accomplis pour leur charge et rendus aptes à toute bonne œuvre, afin de répondre à leur office et à leur mie. Vous savez vous-même que celui qui, par sa bonté, nous a bénis de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, de sorte que nous sommes faits intendants de ses grâces multiples, requiert maintenant de nous tous un service correspondant, selon les dons que nous avons reçus de lui, et quiconque est trouvé fidèle à ses dons et à sa place témoignera certainement d'un accroissement, et croîtra dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et viendra ainsi de plus en plus dans une véritable solidité, jusqu'à l'est. Car vous savez combien richement la puissance de Christ fut manifestée en nous et parmi nous au commencement, et combien merveilleusement elle œuvra pour racheter nos cœurs hors du monde, de sa vanité et de ses plaisirs, afin que nous aimions les choses célestes, y attachions nos affections, et nous délections dans la gloire de ce qui vient du ciel. Mais depuis ce temps, nombreux ont été les exercices, et lourdes ont été les épreuves rencontrées dans notre progrès spirituel, à travers lesquelles le Seigneur nous a conduits, et de nombreuses tentations le Seigneur nous a délivrées et nous en a fait sortir, et de nombreuses faiblesses il les a passées, et de nombreuses offenses dans sa grande miséricorde il les a pardonnées, de sorte qu'à ce jour nous demeurons, et cela dans l'alliance avec lui. Nous avons donc sujet de le louer et de chanter pour lui. Oh ! Mes chers amis, je me sens comme si je vous parlais des miséricordes du Seigneur, de ses bontés d'autrefois et de ses manières d'agir avec nous. Et étant aussi sous le sentiment de notre état présent et des capacités où il nous a amenés, mes entrailles au-dedans de moi se font dans un saint amour et une tendresse envers vous. Et dans cet amour je vous envoie ces lignes, comme la salutation de mon âme dans ce qui vit à jamais, et comme le signe de cet entier amour qui vit dans mon cœur envers vous, dans lequel je désire que vous et moi ayons. Or ce qui vit devant moi, c'est la puissance de Christ, qui fut si richement manifestée au commencement, et qui alors œuvra à nous préparer à être un peuple propre à faire sa volonté, et ainsi elle œuvra à nous purifier, laver et sanctifier, afin que nous soyons des vases saints, propres à son usage. Maintenant, étant préparés, cette même puissance agit puissamment dans les fidèles pour nous rendre aptes et nous équiper pour toute bonne œuvre, afin que nous soyons à la louange de sa grâce, lui qui nous a appelés. Et si nous sommes à sa louange, nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si nous croissons dans la connaissance de lui, comme nous l'avons connu pour nous sauver du péché et détruire le malin, et ainsi être notre sanctification et notre rédemption, de même nous devons attendre de le connaître comme étant fait de Dieu pour nous sagesse, afin qu'il soit notre sagesse, et que la source de cette sagesse pour nous soit le don de sa sainte puissance dans nos cœurs. Ainsi donc, comme elle a puissamment œuvré dans nos cœurs pour nous préparer, de même ce même don se fera sentir œuvrant puissamment pour nous pourvoir de sagesse et nous rendre capables de toute bonne œuvre, et ainsi vous saurez qu'il est fait de Dieu sagesse pour vous. Car la sainte crainte de la puissance sur le cœur en justice, lorsqu'elle est ressentie, guide en sagesse celui ou celle qui parle. Cette même crainte et ce même respect saint sur le cœur guide dans le silence celui qui est assis en silence dont la bouche ne s'ouvre pas, et ainsi il est rendu paisible. Et Christ votre tête qui est un en l'homme et en la femme est sagesse pour vous. Et ainsi tous seront maintenus à leur place, pourvu que vous demeuriez soumis à celui qui est la tête, l'époux de la vraie épouse. Ainsi, chers amis, ayez à cœur sa puissance céleste, et demeurez sous un saint respect envers elle. Et cela vous gardera savoureux et respectueux dans vos réunions, clairs et d'une bonne compréhension, et soumis les uns aux autres. Ainsi vous serez des collaborateurs, vous vous aiderez les uns les autres, et vous en viendrez à bénéficier des dons les uns des autres. Et de cette manière, comme membres, vous remplirez dans une heureuse unité chacun votre office dans le corps. C'est pourquoi mon conseil, comme frère dans l'amour, est que tout soit soumis, que nul en qui la vie tendre, dans un respect céleste, se meut pour un conseil, un avis ou autrement, ne l'éteigne ni n'en arrête le service, car ce faisant, d'autres peuvent être lésés aussi bien que la personne même à qui le Seigneur entend faire du bien par le don, car il n'est pas bon d'arrêter. Seulement que tous prennent garde que leur propre esprit soit soumis, afin que Christ soit la tête en toutes choses, et qu'il soit votre sagesse. Soyez ouverts et prêts de cœur à recevoir conseil, aidez instruction les uns des autres, et maintenez abaissé l'esprit empressé, présomptueux et téméraire, qui voudrait courir sans respect et parler sans la vraie crainte, sans laquelle nul ne comprendra justement ni n'aura un véritable sentiment du poids du service de ce jour. Oh. Il effraie dans mon cœur, ce respect, cette révérence, cette crainte dont nos cœurs étaient remplis au commencement, lorsque nous nous occupions des affaires de la vérité. Cela même doit encore être ressenti et pris à cœur, et alors tout sera gardé savoureux. Et en cela toutes vos réunions, votre souci et votre labeur d'amour seront un sacrifice d'agréable odeur au Seigneur. Amis, que vos réunions mensuelles et trimestrielles soient tenues avec ordre pour le service déterminé et visé, afin que vous soyez retirés du monde, et que ceux qui ne sont pas concernés par le service proposé pour de telles réunions le soient aussi, de sorte que tous ceux qui viennent puissent soit être capables de rendre service dans un esprit de révérence, soit apprendre ce qui peut être pour l'honneur de la vérité, leur propre bien et votre consolation. Alors vous tous qui êtes concernés entrerez dans votre service sans contrainte, et ainsi vous serez un secours les uns pour les autres dans vos dons particuliers, et la source de vie s'ouvrira parmi vous, vos réunions vous seront délicieuses, et vous serez, en cela, une délice les uns pour les autres. Alors, d'un même consentement, dans une agréable unité, vous ferez ensemble l'œuvre du Seigneur, comme ses serviteurs et ses servantes, et serez une part de son agréable héritage qu'il a choisi, sur lequel il fait pleuvoir ses bénédictions chaque jour. Ainsi le Dieu de paix et d'amour remplisse vos assemblées de sa présence, de sa vie et de son amour, afin que vous prospériez comme les plans de sa main droite, et que vous soyez fidèles tout au long de votre jour, tel est le désir de mon cœur et de mon âme, moi qui demeure votre frère en notre Seigneur Jésus-Christ. John Bunyan, épître aux amis de Bristol au temps de leurs souffrances. Londres, le 20 du troisième mois, 1682. Chers amis, l'amour de mon cœur et de mon âme s'étend richement vers vous. Assurément, mon cœur est touché par l'épreuve sous laquelle vous êtes et que vous endurez en ce jour, où le Seigneur semble prendre plaisir à vous éprouver comme dans une fournaise d'affliction, et à éprouver votre foi et votre patience, afin que vous en veniez à en connaître la valeur, celle qui est plus précieuse que l'or qui périt. En vérité, mon cœur croit que le Seigneur ne permet pas que cela vienne sur vous pour vous détruire, mais pour vous éprouver, et quand sa bonne volonté s'y sera accomplie, et que ceux dont les cœurs sont endurcis dans leur cruauté auront rempli leur mesure, il trouvera un moyen de délivrer et de faire paraître son peuple éprouvé et éprouvé, dont les cœurs sont droits devant lui, et dont les âmes sont sagement disposées à le chercher. À cela toutes choses seront justement sanctifiées, et la bénédiction, la paix et la gloire reposeront sur l'homme intérieur, avec la richesse de cette vie qui vient du ciel, pour laquelle vous souffrez. Car c'est votre souffrance innocente pour cela, comme vous en avez le témoignage en vous-même, qui apporte la couronne et le diadème de gloire à poser sur la tête de votre homme intérieur. Ainsi la parole de l'apôtre vient à être attestée, l'Esprit de Dieu et de gloire reposera sur vous, ô mes très chers amis bien-aimés. Comme mon âme se fond en tendresse, et comme mon cœur se brise dans l'amour de Dieu envers vous et dans le sentiment de vos longues et lourdes épreuves que vous avez endurées et traversées, et pourtant, malgré tout, elles doivent sembler comme si elles ne faisaient que commencer. La force des cœurs endurcis est-elle telle qu'ils sont résolus à en finir entièrement, ou à éprouver ce que le Seigneur peut faire, mettront-ils leurs bras à l'épreuve jusqu'au bout? Eh bien, le Seigneur, en son temps, manifestera que ce n'est que chair et non esprit, et par conséquent que cela doit se corrompre et se flétrir, se dessécher et se révéler finalement faible, lorsque le bras invisible du Seigneur, qu'ils ne connaissent pas, sera révélé et tendu mis à nu, bras auquel vous, qui ne regardez pas aux choses visibles, avez foi. Foi par laquelle vous vivez, en laquelle vous avez votre victoire, et en laquelle votre espérance s'attache comme une ancre, à la fois sûre et ferme. Ainsi, bien que les vents soufflent et que les vagues furieuses s'enflent haut, vous êtes préservés d'être renversés et détruits. Bien-aimés, je trouve dans mon cœur une parole de douce exhortation pour vous, que mon âme aime, qui pouvez être, ou être, éprouvée en ce jour d'exercice par des liens ou des emprisonnements. Premièrement, entrez chacun dans une disposition d'esprit paisible au-dedans de vous-même, et dans un état d'abandon libre à la volonté de Dieu, hors du temps, en regardant le moins possible à cela, car si vous le faites, cela rendra vos exercices pires et plus durs. Car j'ai fait cette expérience, lorsque l'homme s'abandonne le plus librement à la volonté de Dieu et qu'il est, dans un esprit droit, le plus disposé à souffrir pour lui, il est le plus propre à recevoir sa liberté, et le plus souvent elle est alors le plus près de lui. Chers agneaux, je sais qu'il y a parfois un travail d'esprit pour parvenir, avec l'homme intérieur, à la juste place, lorsque l'homme extérieur est enchaîné. Mais quand le cœur y parvient une fois, toutes choses deviennent faciles et consolantes par celui qui a dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Ayez donc tous à cœur de passer au travers dans vos esprits, et alors vous sentirez que la parole de Dieu n'est pas liée, mais libre, et vos âmes seront libres en elle et en sa sainte puissance, et ainsi nourries par son lait, que vos âmes en tireront spirituellement, par quoi vous êtes nés de nouveau. Ainsi, dans votre homme intérieur renouvelé pour Dieu et élevé dans sa vie, là où demeure pour vos âmes l'habitation de paix et de tranquillité, où ils ne peuvent atteindre pour apporter un trouble, et là sentant votre aisance, votre joie, votre paix et votre plaisir tel que, dans votre maison de prison, vous pouvez chanter au Seigneur des louanges joyeuses. Alors, mes amis, soyez vigilants, tendres et bons les uns envers les autres, et les uns sur les autres, afin que l'amour, la paix et la joie soient maintenus parmi vous tous, vous qui souffrez justement. Mi, là où il y a innocence et simplicité, supportez-vous les uns les autres et aidez-vous les uns les autres, afin que dans vos souffrances vous ayez communion les uns avec les autres, et ainsi demeurez dans la communion des souffrances de Jésus-Christ, où tous peuvent être humbles et tendres, afin que tandis que d'autres s'efforcent de vous provoquer à sortir de votre place et à offenser le Seigneur, vous ne vous provoquiez pas les uns les autres, ni ne soyez l'occasion pour quiconque de sortir de sa place dans la vérité et ainsi de perdre sa paix avec le. Car j'ai observé qu'il y a un soin à exercer parmi les amis en de tels temps et en de telles conditions, lorsqu'ils sont gardés ensemble, afin que toute chose soit maintenue douce et agréable, et qu'ils puissent même s'unir pour porter le fardeau qui est mis sur eux, et que ceux qui ont plus de croissance et une expérience plus profonde de ce à quoi ils sont appelés puissent aider les faibles, et ainsi accomplir la loi de l'amour. N'entrez pas dans des discours inutiles, car ils peuvent mener à des disputes, qui peuvent nuire à l'unité qui doit être gardée dans la lumière, et ont parfois tourné à une agitation qui a dressé certains esprits les uns contre les autres, alors qu'ils auraient dû être un et demeurer dans l'unité où sont l'amour et la consolation. Ainsi, tous veillant dans la lumière et attendant de sentir dans vos âmes la puissance et la vie qui guérissent, il y aura sur vos cœurs une douceur et une huile céleste, dans lesquelles vous trouverez votre joie les uns en les autres et dans le bien les uns des autres, et cela vous aidera tous. Ainsi le fort sera consolé par le soin innocent et respectueux du faible, et le faible consolé par l'amour, le soin, la douceur et la bonté de ceux qui sont forts. Cela préserve, comme une agréable famille, à l'honneur du grand Seigneur et Père. Alors vous verrez combien il se complaira en vous, paraîtra au milieu de vous, vous enrichira et vous bénira chacun d'une part de lui-même, de sa bonté céleste et de son riche trésor divin, de sorte que nul ne manquera de pain ni de vin rafraîchissant pour nourrir l'homme intérieur, mais le don saint en vous sera comme une source jaillissant pour la vie éternelle. Ainsi vous, chers enfants souffrants du Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon cœur et mon âme vous saluent tous très affectueusement, et dans l'amour de Dieu j'ai unité avec vous dans votre bienheureux témoignage pour lequel vous souffrez, et que le Dieu de toute grâce et de vérité console vos cœurs et relève vos têtes au-dessus de toutes vos difficultés et profondes souffrances, qui, à ce que je comprends, sont renouvelées et augmentées sur vous. Afin que, par lui pour lequel vous souffrez, qui est votre Dieu et le grand Seigneur du ciel et de la terre, vous soyez forts pour endurer et demeurer jusqu'à la fin, à sa gloire et à son honneur, lui qui est sur tout et digne de tout, béni à jamais, amen, de votre ami et frère dans ce qui survivra à toute épreuve en quoi nous avons cru. John Bunyan, Londres, 1680. Chers amis, vous que le Seigneur a visité et atteint par son propre bras saint de puissance céleste, pour cette fin bénie pour laquelle il a visité beaucoup de nations et est apparu à beaucoup de peuples, à savoir afin de montrer de nouveau la gloire au genre humain, dont par le péché ils étaient privés, afin que dans sa visitation il renouvelle cette image céleste, par laquelle il serait de nouveau glorifié parmi les fils des hommes. Et maintenant, en ce grand jour de visitation qui a lui sur les nations, vous dans ces pays, avez été visités et atteints, et gracieusement sauvés et délivrés des pièges de la mort, et introduits dans la voie de la vie, de sorte que vous avez à la fois entrevu cette gloire cachée, en avez goûté, et avez été jouisseurs de la puissance de cette vie qui n'a pas de fin. Maintenant, le soin qui doit toujours demeurer sur vos cœurs est ceci, que vous gardiez en votre possession ce que vous avez reçu, afin que, comme il a été dit autrefois, nul ne prenne votre couronne, et que nul ne manque ce repos préparé pour les visiter et racheter du Seigneur. La voie, vous l'avez connue, Dieu vous l'a montrée et vous a appelé à y marcher, et le but, vous l'avez vu, le Seigneur l'a placé devant vous, afin que vous y tendiez, comme les anciens chrétiens le faisaient, pour le prix du souverain appel de Dieu en Jésus-Christ. Et maintenant, chers amis, ce à quoi je désire que tout soit attentif, c'est qu'il y ait une avance pressante vers le but, et une marche en avant dans ce chemin que le Seigneur a frayé ou révélé, et auquel il vous a appelé. Car c'est celui qui poursuit sa route qui parviendra à la fin bénie et obtiendra la couronne de gloire, et non ceux qui s'attardent ou s'assoient au bord du chemin, soit pour prendre du repos, soit pour chercher un autre héritage que celui que Dieu a promis. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, et celui qui est fidèle jusqu'à la mort aura la couronne de vie. Qu'il y ait donc toujours dans vos esprits une préoccupation en cette affaire de poids, afin que vous voyiez où vous en êtes, et si vous êtes encore en chemin dans votre marche vers le but pour le prix. Comme vous devez considérer si, dans votre marche, vous avancez avec empressement ou non, de même vous devez considérer aussi que vous avancez avec empressement vers le but, sinon vous pouvez manquer le prix, le bienheureux héritage, et être ainsi de ce dont Jacques parle, qui demandent et ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. Car la sagesse céleste doit être recherchée et attendue, celle qui descend en haut et qui enseigne et guide dans la voie céleste, le sentier céleste de vie et de salut, où les pas de chacun seront sûrs, leurs démarches affermies, et leurs entendements grandiront. car le sentier du juste sera comme la lumière resplendissante qui luit de plus en plus jusqu'au jour parfait. Ici nul ne sera comme ceux qui battent l'air ou courent au hasard. L'apôtre dit qu'il ne l'était pas, pourtant il peut y en avoir dont les peines et les travaux soient grands. C'est pourquoi, je le dis encore, que votre élan soit vers le but dans le sentiment de la puissance du Seigneur, qui est le vrai guide et la vraie croix, laquelle mortifie et crucifie la chair avec ses affections et ses convoitises, et maintient le moi abaissé dans la mort, sans réputation, car aucune ne lui est due. Car quiconque donne et cherche une réputation au moi, qui devrait être rendue sans réputation, ne peut jamais chercher correctement l'honneur de Dieu, ni faire son œuvre, ni obtenir le juste prix, ni atteindre la couronne, mais doit finalement échouer. Car c'est en celui qui crucifie le moi et le rend sans réputation que l'élection subsiste, et en qui l'héritage est à jamais. C'est pourquoi, chers amis, attendez de sentir sa réprimande dans vos cœurs, et veillez diligemment à l'œuvre bénie qu'elle accomplit, afin que vous sentiez comment purifier vos consciences des œuvres mortes et nettoyer vos cœurs du péché. Car le péché souille le cœur, de sorte qu'il n'est pas préparé pour le Seigneur, il n'y habitera pas. Il doit donc être lavé, et les œuvres mortes doivent être purgées, car nul ne peut y servir le Dieu vivant. Il faut que ce soit des œuvres vivantes dans la puissance vivante, dans lesquelles nous pouvons être agréés. Que tous donc aient à cœur la puissance vivante, qui est le guide vivant, qui guide dans la voie vivante et maintient vivant pour Dieu. Ainsi vous serez tous gardés comme un peuple vivant, et vous grandirez dans la sagesse vivante qui vient d'en haut, enseignée intérieurement par le don vivant reçu du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. Et à mesure que vous grandirez dans cette sagesse, vous serez constant, il y aura un affermissement, et tels montreront, par une bonne conduite, leurs œuvres, avec douceur et sagesse. Mais dit l'apôtre, s'il y a dans vos cœurs envie et crêle, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse ne descend pas d'en haut, mais elle est terrestre, sensuelle et diabolique, car là où sont l'envie et la crêle, là sont la confusion et toute œuvre mauvaise. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, puis pacifique, modérée, pleine de douceur, facile à fléchir, pleine de miséricorde et de bons fruits, et le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui font la paix. Ainsi vous pouvez voir que les fruits produits manifestent la sagesse d'où ils viennent. La sagesse céleste et pacifique produit les fruits pacifiques de justice, elle est pleine de miséricorde, elle est douce et facile à fléchir, et pleine de bonnes œuvres, mais la terrestre produit le contraire. C'est pourquoi, dit l'apôtre, s'il y a dans vos cœurs une envie amère et de la crêle, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ne dites pas que vous êtes dans la sagesse céleste, tandis que cela demeure en vous, car cette sagesse ne descend pas d'en haut, mais elle est terrestre et sensuelle, et par conséquent ne peut jamais affermir, mais apporte la confusion, parce que celui qui en est l'auteur ne peut jamais faire le bien. C'est pourquoi, chers amis, que vos cœurs soient toujours gardés dans la soumission à cette puissance qui bride vos volontés et les contredit, et vous maintient bas, humble et doux, ou peut-être attester cette mortification quotidienne dans laquelle était l'apôtre, et ainsi vous verrez le vrai empressement à avancer vers le but, et la vraie croissance jusqu'à la domination sur celui qui voudrait empêcher. Et vous savez que celui que nous devons écouter a dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur ». Ainsi, à mesure que chacun apprend de lui, qu'il prend à cœur les directions de sa puissance et les enseignements de son esprit de grâce dans son cœur, il deviendra de plus en plus semblable à lui, et entrera dans sa nature et son esprit de guérison. Et ainsi, dans sa grâce et sa vie, il sera comme guérisseur et sauveur. Et c'est pourquoi il a été dit par le prophète qu'il serait comme des sauveurs sur le mont Sion. Maintenant, amis, que chacun ait à cœur cette puissance salvatrice et guérissante en lui-même, et s'y incline de cœur et demeure tranquille d'esprit et calme, alors vous verrez comment elle vous adoucira, égalisera vos esprits, et abaissera ce qui est orgueilleux et dur, et vous verrez comment les montagnes fondront dans la présence du Seigneur, en la présence du Dieu de Jacob, et vous verrez comment les vents et les mers obéissent à votre Sauveur, et dans quelle paix il ramènera vos esprits. Puis lorsque tout est silencieux, votre oreille étant ouverte, vous verrez que, quand bien même le Jourdain déborderait de son lit, néanmoins, sous la conduite de notre Josué et à l'entrée des pieds de notre souverain sacrificateur, il doit reculer, afin que les rachetés du Seigneur passent à pied sec. Beaucoup de cette nature peut être lue en esprit lorsqu'il y a écoute et humilité, mais les empressés, téméraires et hâtifs sont souvent ballottés sur les eaux et sont très incertains dans leurs voies et leurs actes, et par conséquent ils produisent pour eux-mêmes beaucoup d'afflictions d'âme et d'esprit, car à eux n'appartient pas la promesse là où il est dit. Il gardera dans une paix parfaite ce dont l'esprit demeure ferme en lui, parce qu'il se confie en lui. Maintenant, amis, je pense que la voie est claire, que chacun prenne garde à être attentif à la puissance et à ses ouvertures, à lui céder, et à être humble, car c'est aux humbles qu'il enseigne ses voies, et les doux il les guidera dans le jugement, et les volontaires et obéissants il les affranchira, car la promesse et ils mangeront du bon du pays. C'est pourquoi je vous en prie tous, soyez attentifs, soyez tous soigneux, gardez vos cœurs hors du monde, et des soucis et plaisirs qui noient et étouffent, afin que vous ne soyez ni étouffés par leurs excès, ni entraînés dans les plaisirs du monde et dans une liberté hors de la vérité, où ceci attire, au point d'oublier le Seigneur, et de négliger votre état intérieur. Car si quelqu'un agit ainsi, il perd la gloire, la beauté et la douceur de sa condition céleste, et alors il se lasse de la voix du Seigneur, et il est prêt à dire, comme certains jadis, « Quel profit y a-t-il à servir Dieu ou à garder ses ordonnances ?» Que le Dieu de la vie vous stimule donc et vous réveille tous à la vigilance et à la diligence, afin que vous deveniez riches dans l'homme intérieur, et que vous soyez remplis des vertus et des grâces de Dieu, afin que vous soyez un peuple fécond dans ces parties du monde, à l'honneur et à la gloire de celui qui vous a appelé et visité, lui qui est digne de toute gloire et de tout honneur, de toute louange et de toute domination à jamais. Et, chers amis, l'amour de mon cœur s'étend vers vous tous qui aimez et craignez le Seigneur, et dans l'amour de Dieu je vous salue tous très affectueusement, et j'envoie ceci comme un témoignage de cet amour qui vit encore dans mon cœur pour vous, et j'y demeure votre ami et frère, John Bunyit. Hartford, le 19 du 4e mois, 1682. Chers amis, à vous que Dieu a visité dans son amour et sa miséricorde, et qu'il a montré sa bonté par son Fils notre Sauveur, qu'il a donné pour le salut jusqu'aux extrémités de la terre, à vous dis-je, c'étant le véritable amour de mon cœur, et pour vous demeure dans mon cœur un souci, que puisque Dieu, dans les richesses surabondantes de son amour et de sa miséricorde, vous a visité et appelé à être saint, par la sanctification de la parole et la purification. Maintenant, puisque vous êtes appelé par cet appel saint à être ainsi héritier par la foi dans la semence, en qui l'élection et l'héritage subsistent pour toujours, ayez tous égard à la règle et au gouvernement céleste cette sainte semence dans tous vos cœurs, afin que vos esprits soient maintenus à leur place, dans la soumission et la révérence envers celui que le Père a oint, et dont l'Esprit le Père a envoyé dans vos cœurs, pour vous conduire dans toute la vérité juste dans celui qui a dit « Je suis la vérité en qui demeure la plénitude ». Et maintenant, mes amis, puisque le Seigneur, dans sa miséricorde, vous appelez à cet appel élevé et honorable, à être saint et héritier en Christ, considérez votre appel et ce à quoi vous êtes appelés, et prenez soin de demeurer en lui, et de marcher en lui comme vous l'avez reçu, et de siéger ensemble en lui dans les lieux célestes, comme le firent les saints d'autrefois, car les lieux célestes sont en lui la demeure sûre, et il est le chemin et en lui est la marche sûre. C'est pourquoi l'apôtre exhortait les saints à marcher en lui. Maintenant, mes chers amis, apprenez tous à connaître ce que c'est que marcher en Christ, la puissance et la justice de Dieu, et alors vos pas seront assurés, car il est la lumière et le jour, où il n'y a aucune occasion de trébucher. Vous devez veiller à votre fait de siéger ensemble dans les lieux célestes en Christ, non séparés, non hors de l'unité, mais ensemble en lui, qui est un en tout, et qui maintient tous dans l'unité, dans la vie et la communion qui demeurent en lui. Car il ne peut être divisé, sa tunique était sans couture, c'en était la figure, et ainsi est son esprit, qui est maintenant la couverture de son corps, qu'il a acquis par son propre sang. Il n'y a en lui ni division ni couture, mais il est un bien qu'il diffère dans la manifestation ou dans les dons, quant au degré ou à l'opération à cause des nombreux offices propres aux membres distincts d'un seul et même corps, dont Christ est la tête, pourtant la vie à travers tout le corps, par laquelle chaque membre reçoit la capacité de remplir sa... Car la vie gouverne les membres du véritable corps, et donc ce membre qui sort de sous le gouvernement de la vie doit mourir, la mort vient sur lui, et la puissance de la mort le gouverne, et de là viennent la rupture de l'unité, la discorde, la lutte et la contention. Que tous vos cœurs soient gardés dans le sentiment de la vraie vie et de la vraie puissance de Dieu, et dans la soumission à celle-ci, dans le véritable amour, l'humilité de pensée et l'humilité d'esprit. Dans cette juste disposition d'esprit, vous serez prêts à vous servir les uns les autres dans l'amour, et non à dominer les uns sur les autres avec esprit de seigneurie, car cela n'est pas convenable, non, et ce n'est pas non plus naturel aux membres vivants du corps vivant, dont Christ est la tête et sur lesquels il règne. Ainsi, chers amis, vous tous demeurant dans la puissance, et celle-ci régnant dans vos cœurs, ce qui maintient la tendresse et l'humilité, vous serez remplis d'un saint souci et d'un zèle vivant pour l'honneur du Seigneur et pour la préservation de son peuple dans la justice, afin que la vérité demeure au-dessus, et que la justice soit vécue par tous ceux qui professent ce nom honorable et cette vérité, en laquelle nous avons cru, et par laquelle nous avons été sauvés, sanctifiés et rendus saints. Alors l'unité, l'amour et la paix jailliront et croîtront parmi vous, et vous serez une joie et un réconfort les uns pour les autres, et vous vous fortifierez et vous aiderez mutuellement dans cette grande œuvre et ce grand jour de Dieu. Les fidèles gardant leur place et leurs soucis dans chaque assemblée, et veillant à l'ordre et au gouvernement de la vérité en eux-mêmes, afin d'être gardés dans l'humilité et la sainte tendresse dans leur propre cœur, il y aura cette douceur et cette révérence paisible, savoureuse et convenable aux yeux de tous. Vivant et marchant sous le gouvernement de cet esprit paisible, vous pourrez en venir à être justement préoccupé de la gloire de Dieu, dans l'ordre béni où la vérité a conduit, et que la puissance de Dieu a maintenant établi dans les églises du Christ, pour tenir dehors tous ceux qui sont impurs, indisciplinés et impies, et pour préserver le camp de Dieu dans cette pureté qui lui convient, afin que celui qui est saint prenne plaisir à demeurer au milieu. Vous tous qui gardez vos demeures dans la puissance du Seigneur, ne négligez pas vos dons reçus de Christ, mais soyez concernés dans vos places et selon vos capacités pour l'honneur de la vérité, afin que tout ce qui apporterait du déshonneur à ce non-dit, par lequel vous avez été appelés, et donnerait occasion de trébucher aux faibles, soit ôté dans la sagesse de Dieu, ou du moins par la puissance tendre de Dieu jugée et retranchée du milieu de vous, afin que le camp soit gardé pur, que la justice se répande, et que la... Je voulais aussi vous faire savoir que notre réunion de cette année à Londres a été très calme et paisible. Une unité bénie et une communion réconfortante dans la puissance et l'amour de Dieu ont été attestées parmi nous. Et en cela, nous avons été rassemblés dans ce soin et cette préoccupation que l'état des églises du Christ en ce jour d'épreuve requiert. Car beaucoup de nos amis, en de nombreux endroits de cette nation, endurent de grandes souffrances pour leur témoignage. Mais autrement la vérité prévaut et gagne sur bien des cœurs. Et à travers ces épreuves, Dieu magnifiera sa puissance à la fin et couronnera son peuple de domination, car c'est par les souffrances que l'agneau et ses humbles et fidèles disciples auront la victoire. Nous avons aussi reçu des nouvelles de nombreux pays sur la prospérité de la vérité et l'état des amis lors de l'assemblée annuelle récemment achevée, comme de la Hollande et des contrées de ce côté-là, ainsi que d'Irlande et d'Écosse. Et nous avons ainsi reçu par lettre à l'assemblée annuelle un rapport sur l'état des choses et les affaires de la vérité pour notre grand réconfort. C'est pourquoi il est souhaité que, si le Seigneur l'ordonnait ainsi, afin que nous puissions nous réunir comme auparavant nous l'avons fait, et comme nous entendons le faire, si Dieu le permet, vous en Amérique, vous efforciez d'envoyer pour ce moment depuis vos divers pays, un rapport sur la prospérité de la vérité et sur la manière dont se passent chez vous ces affaires, afin qu'à cette assemblée les amis puissent recevoir de vous un compte rendu, comme nous en recevons d'autres régions. À cette fin, notre cher George Fox, que beaucoup d'entre vous connaissent comme portant un souci général pour le bien de tout le corps, a souhaité que, lors de votre réunion semestrielle dans la seconde partie de l'année, vous rédigiez une épître, qui pourrait être envoyée à Londres pour l'assemblée annuelle chaque année, et ainsi de votre réunion semestrielle en chaque lieu, un compte rendu pourrait être donné chaque année, ce qui serait un rafraîchissement et un réconfort pour les amis. Il est donc souhaité que, si ceci vous parvient à temps pour votre réunion semestrielle, vous vous en souveniez et répondiez aux désirs des amis, et que des copies de ceci soient envoyées en Virginie, au Maryland, en Pennsylvanie et au New Jersey, ainsi qu'à Long Island et à Rhode Island, et à Sandwich et partout où il pourrait y avoir un service, ou à Scituate si la réunion semestrielle s'y tient, et à la Barbade ou aux îles sous le vent. Ainsi, avec mon amour pour vous tous, en ce en quoi tous les fidèles ont communion, je conclus et demeure votre ami et frère dans la vérité. John Bunny est une épître aux amis de Bristol, adressée à ses J. Eaglesfield, Cumberland, le 1er du 6e mois, 1682, cher C.J. Dans cette vérité éternelle et cette semence de vie, par lesquelles le Dieu de vérité nous a visités, l'amour et la véritable affection chérie de mon cœur et de mon esprit s'étendent richement vers vous, avec votre cher époux et vos enfants, ainsi que vers ceux qui, dans cette ville, sont fidèles et droits de cœur envers le Seigneur, et qui, en ce jour d'épreuve, se donnent à Dieu, tant pour agir que pour souffrir pour son nom. Mon âme, je puis encore le dire, est profondément touchée de votre état de souffrance, et vous êtes bien souvent vivement présent dans mon souvenir, et cela dans les approches les plus proches de mon esprit vers le Seigneur, car dans son quoi l'accès à lui est expérimenté, vous êtes très souvent placé devant mes yeux, avec la souffrance sous laquelle il plaît à votre Père Céleste d'éprouver votre foi et votre confiance, et de vous faire connaître la valeur précieuse de celle-ci au temps du besoin. Maintenant, mes très chers bien-aimés, veillez à demeurer dans la foi qui donne la victoire, et qui sauve et défend véritablement, et sachez vrai pour toujours cette ancienne parole, « Les cheveux même de votre tête sont comptés, et pas un ne tombera à terre sans la providence de votre Père. Que vos yeux soient donc tournés vers lui pour le salut et la préservation, et sachez qu'il peut et qu'il délivrera quand il le jugera bon, car vous connaissez celui qui est le Dieu vivant, qui règne et régnera sur tout, et qui, en son temps, fera savoir à tout ce qu'il peut faire tout ce qui lui plaît au ciel et sur la terre. Ayez égard à votre connaissance de lui, dans ce qui peut être connu de lui dans vos cœurs, et à votre unité avec sa vie dans vos âmes, afin que vous en ressentiez tous la paix et la sainte source qui s'y trouve, que l'homme, avec toute sa cruauté, ne peut arrêter. Mais quand ceux qui cherchent à vous détruire et à vous enlever toute consolation auront fait tout ce qu'ils peuvent, cette source, étant ouverte dans vos cœurs, vous avez une consolation, une paix et une joie qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne peuvent vous ôter. Ô vous, chers enfants souffrants et tendres petits de l'Omnipote, qui êtes appelés à ce jour de tentation ou d'épreuve, combien l'amour même de mon cœur se répand vers vous en ce moment, comme en bien d'autres. Que le Seigneur, le Dieu de force, soit avec vous, qu'il vous fortifie et remplisse vos âmes tendres de la gloire de sa vie et de la douceur de sa présence, afin que vos esprits le louent avec allégresse au milieu de tous ces exercices dont vous êtes entourés. Maintenant, mes chers amis, il me semble voir le mur dont le Dieu d'Israël vous entoure, au-dessus duquel l'adversaire ne peut tirer une flèche, quoiqu'il se vante grandement de ce qu'il fera, comme autrefois. Ô heureux ceux qui demeurent au-dedans, et exposent leur cause devant le Seigneur, qui est le Dieu vivant. Souvenez-vous du roi d'autrefois, qui ordonna le silence et dit « Ne lui répondez pas un mot », puis il retourna au temple et à l'autel du Seigneur, étendit la cause devant lui, et confessa la faiblesse de la fille de Sion pour enfanter, et aussi sa foi dans la suffisance de la puissance de Dieu, lorsqu'il dit « Tu peux sauver ». Vivez élevés vers le Seigneur dans vos esprits, et soyez fidèles, et gardez votre paix avec lui dans l'homme intérieur, et veillez à votre unité avec son esprit, prenez garde à ce qui ferait obstacle à votre communion avec sa vie, qu'aucun beau prétexte ne l'emporte sur vous, qui aurait quelque tendance à vous ramener en servitude, car cette servitude se révélera la plus grande des esclavages, et je crois que vous le savez très bien. Maintenant, mes chers amis, vous tous veillant à votre liberté intérieure et à votre aide spirituelle, dans la liberté et la délivrance que Dieu vous a donnée par Christ, votre Sauveur, vous aurez une demeure remplie de gloire, de richesse et de consolation, sur laquelle le nuage de l'ennemi ne peut venir, et en cela vous verrez jusqu'au bout de tout ce qui voudrait soit obscurcir, soit apporter la détresse. Vous verrez combien il est bon de se confier au Seigneur, de s'appuyer sur sa puissance et de s'abandonner librement à sa volonté. Mon amour est véritablement pour vous tous, et dans l'amour dont je vous aimais autrefois, je vous salue tous, vous tendres enfants souffrants, et je désire de toute mon âme et de tout mon esprit que Dieu, dans sa miséricorde et sa bonté, vous bénisse de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, et enrichisse vos âmes de la divine abondance sa maison et du plaisir de sa vie, afin que vous ayez chaque jour joie et délices dans vos cœurs, qu'ainsi votre force soit renouvelée, et votre capacité tellement augmentée, que vous puissiez porter ce qui est. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, l'hôte, si tel est son bon plaisir, tel est le désir de votre ami et frère dans la communion des souffrances et de la tribulation, et aussi de la consolation à laquelle nous sommes appelés par Jésus-Christ notre Seigneur. John Bunyan, chapitre vie, un abrégé de certaines lettres de John Bunyan à son frère T. A. de Londres, poursuivant le récit de ses voyages pendant les 8 dernières années de sa vie, le tout de sa propre écriture. Dublin, le 28e du 8e mois, 1682. Je suis arrivé ici sain et sauf depuis Cumberland, et j'ai assisté à toutes les réunions que j'avais fixées dans le Westmoreland, à savoir, j'ai eu une grande réunion à Camskill le troisième jour de la semaine, c'était la réunion générale, ce fut une journée très agréable, la réunion au dehors très nombreuse, les amis vinrent en grand nombre. Et en vérité, la puissance du Seigneur était avec nous, et mon cœur fut grandement dilaté envers les amis. Le quatrième jour suivant j'étais à Sedberg, la réunion se tint dehors près de la maison de réunion, les portes ayant été fermées par les officiers, elle fut calme et nombreuse. Le cinquième jour j'étais à Greyrigg, le sixième jour à Derhite, le premier jour à Swarthmore, et le troisième jour à Roxhead, et nous eûmes une réunion bénie, mon cœur fut réconforté. Le quatrième jour nous eûmes une grande inondation, qui m'empêcha de rentrer ce jour-là, mais je parvins à Keswick en Cumberland, et le cinquième jour je rentrai chez nous pour notre réunion à Partsey, et j'y fus aussi le premier jour, où le Seigneur dilata mon cœur pour me dégager de tout de bon ce jour-là. Le troisième jour j'étais à la réunion des hommes, où le Seigneur fut richement avec nous, gloire éternelle à lui pour toujours. Le quatrième jour de bonne heure je descendis à Whitehaven, plusieurs amis vinrent avec moi, mais le navire étant prêt je ne pus rester. Je montai donc à bord, et le lendemain soir j'arrivai ici sain et sauf à Dublin, où tout va bien. Dublin, le 13e du 9e mois, 1682. Cela me fait grand plaisir d'entendre parler des amis en Angleterre et de leur situation en ce jour d'épreuve. Car comme nous aimons la vérité, et les uns les autres en elle, nous portons un souci les uns pour les autres, et pour la vérité en général, et c'est pourquoi je me réjouis de la prévalence de la vérité et de la prospérité des amis en elle. Que le Seigneur réveille tous ceux qui sont concernés à leur place, afin qu'aucun ne fléchisse au jour de l'épreuve. La semaine dernière a eu lieu notre réunion semestrielle, beaucoup d'amis étaient ici, et nous avons eu une saison bénie, par la vertu enrichissante de la puissance du Seigneur, et dans l'amour, la paix et la concorde, tout s'est déroulé parmi nous, ainsi tout fut doux et réconfortant. Il est question de mettre les lois à exécution contre les dicides, quoi qu'il en soit, si le Seigneur permet une telle chose, je crois que ce sera pour sa propre gloire à la fin, en manifestant ce qui sont approuvés et en éprouvant la foi de son peuple. Mais nous sommes encore tranquilles, sauf quelques-uns qui sont en prison pour la dîme. Nos réunions sont grandes et bien remplies dans cette nation, et les amis me disent qu'il y a une ouverture en beaucoup d'endroits. Oh, que nous puissions être trouvés fidèles, afin que nous travaillions avec lui dans sa vigne et sa moisson. Dublin, le 6e du 10e mois, 1682. Que le Seigneur nous préserve tous dans la foi qui donne la victoire, et fidèles à Dieu en ce jour d'épreuve, où il apparaît que le Seigneur juge bon d'éprouver son peuple, tant dans sa foi que dans sa patience, afin que les approuvés soient manifestés. Nous avons de grandes réunions dans cette ville, et une ouverture en bien des endroits à la campagne. J'ai été dans les comtés de Wicklow et de Carlow, et dans le comté de la Reine, et à Moat, et à Edenderry. Et demain j'ai l'intention, si le Seigneur le veut, de repartir à la réunion provinciale à Rosnally. L'épître vive qui suit n'a pas d'adresse spécifique. Coq, le 25 du 10e mois, 1682. Chers amis, dans l'alliance éternelle de vie et de paix, et dans la source pure de l'amour divin, je me souviens de vous et vous salue tous très affectueusement, vous qui, dans la foi qui donne la victoire, demeurez et tenez ferme. Gardez vos habitations et demeurez dans les lieux célestes, en Jésus-Christ votre Rédempteur, qui vous a racheté de la méchanceté qui est dans le monde pour vous ramener à lui, et ainsi dans sa propre puissance et nature, qui est juste, afin que vous deveniez la justice Dieu en lui, et que vous soyez restaurés dans l'image, la nature et l'état dans lesquels l'homme a été créé, par celui qui a fait toutes choses bonnes, et l'homme à son image, afin qu'il prît plaisir en l'homme, et que l'homme l'honora et le glorifia. Or cette œuvre de restauration, vous le savez, Dieu a envoyé son Fils pour l'opérer et l'accomplir en l'homme et pour l'homme, afin que l'homme de nouveau honore son Créateur et devienne le délice de son auteur, dont le plaisir est d'habiter les parties habitables de la terre, oui, parmi les fils des hommes. C'est pourquoi, afin que vous soyez son délice et qu'il prenne plaisir en vous, demeurez dans ce qui a renouvelé, ou renouvelle et change le cœur et l'esprit, afin que dans cette nouveauté vous le serviez, l'honoriez et le glorifiez, lui d'où vient la puissance renouvelant et la parole, afin que la nouvelle création, les nouveaux cieux et la nouvelle terre soient connus, où la justice habite, et que vous y ayez votre conduite, et que vous brilliez comme des lumières au milieu de cette génération tortueuse et perverse, dont les cieux et la terre sont habités par. Et, comme l'apôtre l'a dit, le Seigneur ébranlera non seulement la terre, mais aussi les cieux, afin que ce qui ne peut être ébranlé demeure. Je crois que les cieux de beaucoup seront ébranlés avant que ce jour scrutateur, vanant et éprouvant ne soit terminé, et qu'il s'étend sur les nations et les peuples, car les cieux de beaucoup sont couverts de ténèbres et d'épais nuages, et leur gloire s'en est allée, et leur éclat et leur fermeté se sont perdus. Pas une étoile à voir, sinon une errante hors de sa course, hors de l'Alliance qui a grandement perdu sa lumière, et ainsi dans les nuages des ténèbres, poussés çà et là par les vents variables et incertains qui sont, et qui peuvent être les. Chers amis, Dieu a manifesté ce qui est sûr pour toujours et qui demeurera, et vous en avez connu la puissance, et comme vous demeurez dans le saint sentiment de cela, vous serez ferme, constant et inébranlable en vos esprits, et non promptement ébranlé ni déplacé de votre demeure et de votre fermeté dans l'Évangile de Jésus-Christ notre Seigneur, qui est la puissance de Dieu, au-dessus de toute puissance, trône et domination, et qui demeurera et ne peut être ébranlé. Car la puissance et le royaume de l'Évangile sont au-dessus du ministère de Jean, et celui qui est le plus petit en ce royaume est plus grand que Jean, et il est parvenu à ce qui est plus sûr qu'un roseau que le vent peut secouer, car même s'il n'est pas brisé, il peut être secoué. Ce qui voudrait demeurer là et ne pas avancer jusqu'à Christ, le rocher qui ne peut être ébranlé, n'ont pas une demeure sûre, leur habitation sera renversée, et leurs maisons deviendront une désolation. Il me semble voir cela en nos jours, chez ceux qui se sont arrêtés en deçà de la substance éternelle qui a mis fin à toutes les ombres, celles de Jean comme celles d'avant lui. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui avez connu la substance éternelle, la puissance vivante du Seigneur Jésus-Christ manifestée dans vos cœurs, par laquelle vous avez été vivifiés, relevés et rendus vivants pour Dieu, attachez-vous à la puissance dans vos âmes, et veillez à ce qu'elle vive en vous afin qu'en elle vous viviez pour Dieu, et demeuriez ainsi un peuple vivant tout au long de votre âge, les témoins vivants de Dieu en votre temps sans altération, et soyez de ceux qui n'ont pas été seulement auditeurs de la parole, mais aussi pratiquants. Car en demeurant sur le fondement sûr, vous persévérerez, et le Seigneur vous bénira de paix dans vos âmes et de véritables plaisirs dans vos cœurs, et vous jouirez des vraies richesses et du trésor céleste, et vous apprendrez en demeurant dans la puissance de Dieu dans vos cœurs, à amasser ce vrai trésor dans le ciel par la vraie foi, là où le voleur ne peut venir dérober, ni la teigne consumer ou corrompre. Vos richesses et trésors, en lesquels vous mettez votre confiance et votre joie, étant ainsi déposés en sûreté, vos cœurs seront tranquilles et affermis dans le royaume, au ciel, là où est le trésor. Et alors les paroles de Christ seront attestées, là où est le trésor, là aussi sera le cœur. Oh mes chers amis, combien ces choses sont vraies! Heureux ceux qui grandissent jusqu'à en faire l'expérience, par l'opération et les ouvertures de la puissance céleste dans leur cœur, ceux-là sont gardés libres de ce qui voudrait enlacer, et leurs pieds sont en liberté, afin qu'ils puissent courir joyeusement la course qui est placée devant eux. Car les richesses, le prix vers lequel leur cœur se porte, étant devant eux, et la cible aussi qu'ils regardent, cela les pousse à aller de l'avant, de sorte qu'ils ne sont pas de ceux qui se retirent pour leur perdition. Ainsi, amis, vous pouvez voir où, et en quoi, votre exercice profitable se trouve durant votre temps, et où se trouve le gain durable, les richesses et le trésor à obtenir, qui dureront et seront votre part quand l'ennemi et tous ses instruments auront fait tout ce qu'ils peuvent. C'est ce qui fit dire à David qu'il ne craindrait pas ce que l'homme pouvait lui faire, car le Seigneur était son berger, et le Seigneur était la portion de sa coupe et le lot de son héritage. Gardez donc vos cœurs hors du monde et de ses richesses, qui sont incertaines, et tenez-vous aussi au-dessus du plaisir pris à sa gloire, Que votre délice soit dans le Seigneur et dans la douce et agréable jouissance de sa puissance juste et paisible tout le long du jour, afin que vous sentiez toujours en elle une demeure et un lieu de refuge en tout temps de besoin. Attendez ces saintes éclosions dans vos cœurs, afin que vos âmes, par elles, étant unies à Dieu, vous demeuriez dans son alliance, et ainsi dans l'unité avec lui et son Fils béni, et que vous ressentiez la communion, qui est un mystère, tenu dans une conscience pure. Bien-aimés, vivez en paix entre vous, et attendez que l'esprit d'amour et de concorde jaillisse dans toutes vos âmes, afin que le vrai signe des disciples de Christ paraisse parmi vous. Souvenez-vous de ce qu'il dit aux siens autrefois, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, et de ce que dit l'apôtre, est celui qui demeure en Dieu demeure dans l'amour. » Je vous en prie, attendez la puissance de cela dans vos cœurs, afin que, en elle, vous vous serviez les uns les autres, et que tout le corps soit édifié, les faibles fortifiés, les cœurs abattus encouragés, et que les boiteux ne soient pas écartés du chemin, mais que tous soient aidés à avancer sur leur route. Tous étant ainsi dans la puissance juste et sainte, exercée pour le bien, où elle vous conduira, seront une force et un réconfort, et une couronne de joie les uns pour les autres, et des aides à l'avancement de la joie les uns des autres dans le Seigneur. Assurément, cela est nécessaire en ce jour où Sion a tant d'ennemis, elle a besoin d'être comme une ville qui est en paix en elle-même. Que le Dieu de paix vous garde donc tous dans la domination de sa vie, afin qu'en elle vous régniez sur toute chose nuisible, et demeuriez sur la sainte montagne de sûreté, où le destructeur ne peut venir, sur la sainte colline de Sion, autour de laquelle il a établi le salut comme muraille et rempart, afin que vous attestiez tous que la paix est au-dedans de ses murs, et la prospérité au-dedans de ses palais. Ainsi chaque jour, que de hautes louanges soient dans vos cœurs et dans vos bouches envers son roi, qui est roi des rois et règne sur tout, lui qui seul possède l'immortalité et habite la lumière, à qui soit la gloire et les louanges éternelles, dit mon âme pour toujours. Amen. Béni soit son nom, il est le gardien d'Israël, qui ne sommeille ni ne dort, mais qui se souvient de son peuple, son œil est ouvert pour voir leurs afflictions, et son oreille est ouverte pour entendre leurs plaintes et leurs tendres gémissements. Nul doute qu'il ne se lèvera en son temps pour opérer délivrance et salut, et ils le glorifieront. Ô mes chers amis, combien mon âme est submergée en ce moment, dans l'amour pesant de Dieu envers vous tous, qui souffrez, ou êtes disposés à souffrir, et estimez votre témoignage au-dessus de toute chose, pour l'amour de son nom, lui qui vous a aimé, et êtes ainsi de ce nombre qui n'aime pas leur vie jusqu'à la mort, mais se donnent à suivre l'agneau partout où il va. Mon cœur est affligé avec vous dans votre témoignage, et je puis dire, comme Déborah autrefois, mon cœur est avec vous, qui vous offrez volontairement parmi le peuple, maintenant pour souffrir dans le combat de l'agneau, comme faisait la guerre dans la guerre extérieure, car c'est ainsi que l'agneau et ses disciples triomphent, lui a été rendu parfait par les souffrances, et la promesse demeure, l'agneau aura la victoire, gloire éternelle, honneur et louange au Dieu vivant qui siège sur le trône, et à l'agneau qui en est digne à jamais. De votre ami, et de quelqu'un qui vous aime véritablement dans la vérité. John Bunyan, lettre aux amis en prison Castle Salem, dans l'ouest de l'Irlande, le 30 du 10e mois, 1682. Cher R. S. à vous, avec votre chère épouse C. H. R. V. Les vôtres ainsi qu'au reste des amis qui sont là en prison avec vous, l'amour vivant et sincère de mon cœur parvient véritablement et s'écoule affectueusement, car je puis dire en vérité que vous êtes souvent proche de mon âme, et tendrement dans mon cœur, et cela dans mes approches les plus proches vers le Seigneur, quand ma vie s'ouvre, et que mon esprit est libéré par sa puissance et répandu dans son sein, car béni soit son nom, il nous donne accès par son propre esprit, alors même vous êtes bien des fois tout frais dans mon cœur. C'est pourquoi, chers amis, ne regardez pas au dehors, ne regardez pas en arrière, mais vers le Seigneur, votre rocher et votre force, levez les yeux pour l'aide et la délivrance, car vous savez que c'est de lui que vient le salut, et non des collines et des montagnes. Car il est le Dieu de toute la terre, et les montagnes fondront en sa présence, et devant lui les collines s'enfuiront, oui, la mer aussi s'enfuira, et le Jourdain sera repoussé, afin que ses rachetés passent, que son peuple délivré entre dans son repos. Oh. Attachons-nous donc au Seigneur notre Sauveur, et suivons ainsi Christ notre Rédempteur, qui peut ouvrir un passage à travers le grand abîme. Ne nous laissons effrayer par rien de ce qui peut se dresser sur notre chemin pour s'opposer à nous, tant que notre chef est avec nous, et que notre rocher béni nous accompagne, et que nous sentons notre demeure au-dedans de ses murs, notre pain sera assuré, et notre eau ne manquera pas, et nos cœurs ne seront pas stériles, nos âmes ne défailliront pas, mais nous croîtrons par les bénédictions du Dieu d'Israël. Car il n'y a rien qui puisse nous nuire davantage en ce jour d'épreuve qu'un manque de foi dans la puissance de Dieu et dans son bras de force, qui n'a jamais failli à ceux qui y mettent leur confiance. C'est pourquoi, mes très chers bien-aimés, avec qui mon âme est liée dans l'alliance de vie, en laquelle j'ai unité avec vous, et je puis dire, bien que vous portiez le fardeau, mon cœur est concerné pour vous, et aussi avec vous dans votre souci pieux et votre témoignage pour lesquels vous souffrez, et c'est pourquoi vous ne pouvez être oubliés de moi. Car comme nous aimons la vérité et son saint témoignage, pour lequel vous souffrez et êtes enchaînés, En esprit, nous sommes souvent comme enchaînés avec vous et ressentons avec vous vos fardeaux. De plus, nous ne pouvons nous proposer autre chose que, d'ici peu, de partager avec vous, de prendre part à des souffrances, épreuves et exercices semblables, et c'est pourquoi notre sûreté est encore de nous préparer dans nos cœurs et de nous abandonner à la volonté de Dieu pour faire ou souffrir pour l'amour de son nom. Car nos jours semblent être comme les jours d'autrefois, où l'apôtre disait qu'ils étaient mis à mort tout le jour et regardés comme des brebis destinées à l'abattoir. Si nous regardons dans les Écritures, nous avons une nuée de témoins, et ainsi, par ce qui a été écrit auparavant, écrit pour notre instruction, nous pouvons avoir consolation et notre espérance être affermie, et ainsi d'être encouragés à nous confier au Seigneur, notre force, et en qui est notre espérance. Or il doit encore être notre souci, comme des agneaux de brebis de vivre dans l'innocence, et ainsi comme des agneaux de souffrir pour notre innocence pour notre témoignage, auquel nous sommes appelés. Et assurément, je considère souvent quelle pratique plus innocente pourrait jamais être trouvée en nous que dans nos réunions paisibles, pour attendre le Dieu vivant et l'adorer dans son esprit de paix, par lequel nos cœurs viennent à être purifiés de tout mal, et nos esprits rassemblés dans la paix et l'amour de Dieu, en lesquels nous aimons Dieu de nouveau. Si cela doit être mal interprété, et si nos intentions justes et pieuses sont comptées comme une transgression de la loi et une rupture de la paix, je ne sais pas comment ceux qui font ainsi peuvent appeler cela innocence. Assurément, quiconque a le cœur justement exercé dans ce devoir pieux auquel le Dieu vivant nous appelle, doit être innocent devant Dieu, et dans cette disposition d'esprit dans laquelle nous ne pouvons, non, n'osons pas désirer le mal à qui que ce soit, mais à mesure que la vérité s'élève, nous prions pour tous les hommes, tant pour les gouvernants que pour le peuple. Ainsi je sais que, sous l'exercice de la puissance juste de Christ dans nos réunions, nos cœurs sont ainsi disposés. Et alors, si nous devons souffrir pour avoir fait le bien, sous le nom de malfaiteur, nous serons heureux, et nous pourrons nous satisfaire de ce que Christ disait autrefois. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, car s'ils l'ont tenu pour blasphémateur et ont dit qu'il avait un démon, et l'ont ainsi persécuté, nous pouvons bien tourner nos regards vers lui et nous réconforter en suivant un tel exemple. Soyez réconfortés, vous qui souffrez fidèlement avec Christ et pour lui, et fortifiez vos cœurs dans la récompense qui est auprès de Dieu pour vous, et attendez l'Esprit de Dieu et de gloire, afin qu'il repose sur vous. Ne regardez jamais au dehors, car votre cause est bonne, c'est ce à quoi Dieu vous a appelé, et vous êtes heureux dans votre noblesse et votre vaillance, et quiconque se rétracte de son témoignage innocent en cette matière souffrira une perte dans son état intérieur. Car si quelqu'un se retire, ceux-là sauront que le Seigneur n'ira pas avec eux, n'aura aucun plaisir en eux, et ne sera pas leur consolateur, mais leur réprouveur. Mon âme désire que tout soit vaillant pour la vérité et se tienne dans sa puissance, selon ce à quoi le Seigneur a appelé, afin que vous soyez ensemble comme une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Car bien que les renards aient des tanières et les oiseaux du ciel des nids, souvenez-vous pourtant de ce que Christ dit à l'homme qui disait qu'il le suivrait. Que le Seigneur vous donne à tous vaillance et force, et vous enrichisse d'une vraie patience, que la tribulation produit en l'exercice approprié, afin que vous grandissiez tous dans la véritable expérience et dans l'espérance qui ne rend point honteux, afin que l'amour de Dieu soit répandu dans vos cœurs chaque jour, par son esprit qu'il vous a donné, et alors vous sentirez tous une demeure dans son alliance et dans sa paix. Et ainsi dans cette alliance, paix et amour, je vous salue tous très affectueusement, et j'y demeure toujours, votre ami et frère. John Bunyan Journal continué. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.